Chers amis, nous sommes, mon épouse et moi, au bout d'une ligne droite, à la fin de cette série de six temps forts de réflexion biblique. Nous avons eu de la joie durant cette dixième visite de l'église du Bon Berger en un peu moins de 20 ans. Et nous allons continuer ce service à partir de ce soir à Rivière-Salée, le cœur en fait, reconnaissant pour la générosité de notre Dieu et aussi convaincu que la parole du Seigneur ne retourne jamais à lui sans effet. On dit parfois, et je l'entends souvent, « Oh Seigneur, fais que tout cela ne s'envole pas dans les jours qui viennent. » Mes amis, si je pensais que ce que nous partageons s'envole, je ferai un autre travail. Mais Dieu m'a appris qu'il est fidèle à sa parole et qu'il y aura du fruit qui demeure pour l'éternité. Oh, certes, les effets de la parole de Dieu, de cette parole vivante, ne sont pas toujours ceux que nous souhaitons. Parce que la parole de Dieu est pour les uns odeur de vie et pour les autres odeur de mort. Mais elle est toujours odeur de la part de Dieu. Elle ne laisse pas indifférent, chers amis. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux d'être au service de Dieu, d'être le prédicateur de la parole vivante d'un Dieu vivant. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier livre des Chroniques, dans l'Ancien Testament, encore un de ces livres qui ne passionne pas les enfants de Dieu. Nous avons lu le début du Lévitique hier soir. Eh bien, prenons la fin du premier livre des Chroniques, au chapitre 29. Dernier chapitre de ce premier livre des Chroniques, où nous lisons simplement le premier verset, qui est le début d'un discours tout à fait particulier, sorte de testament spirituel d'un grand roi, type de Jésus-Christ, David, qui est dans sa 71e année et qui, dans sa vieillesse, exprime dans ce dernier discours finalement ce qu'il a appris dans sa marche avec Dieu. Il se prépare à céder le témoin à son successeur et fils Salomon, qui sera le constructeur du temple de l'Éternel. Et il commence ainsi son discours. Le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, c'est-à-dire inexpérimenté, et l'ouvrage est considérable, car, et j'attire votre attention sur la fin de ce verset, car, et il est question du temple de l'Éternel, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Nous y reviendrons. Et nous allons maintenant vers notre seconde lecture, qui est une répétition, la sixième, de Romains au chapitre 12, dont nous lisons et relisons donc les deux premiers versets. C'est le thème de notre réflexion. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez continuellement métamorphosés, transformés en profondeur par le renouvellement de la mentalité, de l'intelligence, des pensées, de l'esprit, afin que vous discerniez, que vous éprouviez, que vous appréciez quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous exhorte donc, et il est des petits mots, comme cette conjonction de coordination, donc, qui lorsqu'il figure dans le texte original, bien entendu, sont de ces mots absolument incontournables, puisqu'ils vont donner un relief absolument saisissant aux paroles qui suivent. Il en est ainsi de ce petit donc qui nous a entraînés dans 4 études, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir, au cours desquelles nous avons brossé la toile de fond du début de cette partie pratique de l'Épître aux Romains, la cathédrale de la foi chrétienne. Les 4 roues, allant par paire, 2 par 2, qui constituent ce que nous avons appelé la philosophie du salut. Tout d'abord, le besoin universel du salut par cette déclaration impressionnante, bouleversante, qui ne peut laisser personne indifférent, toute l'humanité, sans exception, est sous la condamnation de Dieu à cause de son péché. Et puis à partir de là, cette deuxième roue, qui est une seconde déclaration, et autant la première est sombre, autant la seconde est lumineuse. Déclaration de condamnation d'un côté, déclaration de justice de l'autre, la justification. Coup de trompette, tonitruant, résonnant dans un ciel obscurci par le péché. Soleil qui se lève, espérance qui pointe à l'horizon, déclaration de justice. Nous avons été, nous sommes déclaré juste, innocenté, vu par Dieu comme si nous n'avions jamais fauté, dans la mesure où nous venons plaider coupable à la croix du calvaire, là où Jésus-Christ lui-même a pris sur lui la condamnation qui pesait sur nous et nous a délivrés, s'est substitué à nous par une mort sanglante, atroce, afin que nous soyons revêtus de sa justice, rendus propices, favorables à Dieu qui nous ouvre alors tout grand son cœur de Père. Condamnation, justification. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous il y a bientôt 2000 ans. Deuxième paire de roues, sanctification, ce que Jésus-Christ fait en nous par le Saint-Esprit depuis l'instant même où nous tournons délibérément vers Jésus-Christ, nous avons été déclarés justes à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Il nous sanctifie. Progrès dans la sainteté, marche dans la sainteté, de progrès en progrès, grâce au ministère permanent du Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Parce que nous sommes morts au péché, en Christ, nous sommes morts au péché. Morts aux exigences du péché, morts aux exigences de la loi. Nous avons été ensevelis et nous sommes ressuscités avec et en Christ, intégrés en Christ à une vie nouvelle, à sa vie de résurrection. Et puis enfin, cette quatrième roue motrice qui constitue le fait de cet édifice extraordinaire du salut, la glorification. Car nous ne sommes sauvés qu'en espérance. Nous attendons une rédemption, un rachat dans sa totalité, c'est-à-dire qui touche aussi nos corps mortels, qui penchent de plus en plus vers la tombe. Et bientôt, nous l'attendons ce jour de la résurrection corporelle, où le salut qui nous a été acquis par la mort de Christ sur la croix sera acquis dans sa totalité, dans ce corps nouveau. Espérance de la gloire qui nous anime et qui nous permet de tenir le coup dans tous les combats de la vie ici-bas. Condamnation, justification, sanctification, glorification. Avec cet hymne triomphal des derniers versets de Romains 8 qui s'achève avec cette sublime déclaration, mais qui donc pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Aucun ennemi, quel qu'il soit, ne peut séparer le véritable enfant de Dieu de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est à cause de cela, voilà ce qui constitue le donc. C'est à cause de cela que vous et moi, nous sommes invités, instamment invités, à offrir nos corps en sacrifice vivant à notre Dieu. Hier soir, nous avons considéré la première des cinq caractéristiques de cette offrande en sacrifice vivant. Et nous avons affirmé haut et fort, solennellement, hier soir, que Dieu est un Dieu totalitaire dans ce domaine, que tout est toujours figure quelque 1400 fois dans le Nouveau Testament, pour nous rappeler que l'offrande de nos corps n'est pas une offrande partielle. C'est la totalité de notre personne qui est visée ici. C'est tout qui doit être mis sur l'autel, tout comme le juif pieux, après avoir offert son sacrifice de culpabilité, son sacrifice d'expiation, son sacrifice d'action de grâce ou de reconnaissance, finalement, au sommet de cette succession de sacrifices, offrait l'Holocauste, dans lequel tout, absolument tout, sans exception, était mis sur l'autel et y était brûlé. C'était là le thème que nous avons longuement développé hier soir. On n'a rien donné tant que l'on n'a pas tout donné. Deuxième de ces cinq caractéristiques, elle va de soi. Simplement, après ce que nous avons dit et redit il y a un instant, ce sacrifice, s'il fallait l'appeler ainsi, en s'appuyant sur le contexte du Lévitique, ce sacrifice doit être absolument inspiré par l'amour. Nous pourrions intituler Romains 12, 1 et 2, par trois petits mots, Moi, je vous encourage à les noter au regard de Romains 12, 1 et 2 dans la marge. Trois petits mots. Et chez vous, vous les mettrez pour chacun dans une couleur différente. Don, donc, don. Don, D-O-N, donc, don, D-O-N. Parce que Dieu nous a donné, nous donnons. Parce que Dieu nous a donné, nous donnons. Le ding-ding-dong de la consécration. Don, donc, don. Par les compassions de Dieu. Non pas pour obtenir la compassion de Dieu. Nous l'avons reçu, il a fait le premier pas. Il nous a aimés le premier. Et nous l'avons vu, cette bonté, ces compassions de Dieu sont remarquablement décrites dans Romains 1 à 8. Et en particulier dans ces versets de Romains 8, 28 à 39. Oh, je pense ici à deux exemples. Un dans l'histoire de l'Église, dans un lointain passé, au XVIIIe siècle. Et un dans l'histoire de l'Église d'aujourd'hui, en 2001. Le premier exemple concerne un conte. Un conte appelé le conte Tzinzendorf, qui a vécu dans ce qu'on peut appeler l'Europe de l'Est, entre 1700 et 1760. Jeune homme déjà, il faisait preuve d'une grande piété. Et cet amour pour le Seigneur ne tarda pas à inquiéter son tuteur, le responsable de son éducation. Ce tuteur rêvait pour lui d'un brillant avenir et il cherchait absolument à détourner ce jeune comte de tout ce qui est d'en haut, tout ce qui est du Seigneur. Et il lui proposa donc des voyages à l'étranger. Et bien sûr, Tzinzendorf réalisait que son tuteur voulait l'éloigner du Seigneur. Mais Dieu se servit de l'un de ses voyages, qui fut un tournant radical dans la vie de ce jeune comte. Il passa dans une ville d'Allemagne, à Düsseldorf, où il visita un musée. Et dans ce musée, il vit un tableau très célèbre représentant le Christ sur la croix. Mais ce n'était pas d'abord le tableau en lui-même, avec cette représentation de la mort de Christ sur la croix qui l'impressionna, mais une inscription qui figurait sous le tableau. Il y était écrit « Voilà ce que j'ai fait pour toi ». Toi, que fais-tu pour moi? Et le jeune comte Tzinzendorf de ressentir une impression profonde et de dire, mais je n'avais pas grand-chose à répondre à cette question. Et je suppliais le Seigneur de placer au-dedans de moi ce qu'il désirait que je fasse pour lui. Et le Seigneur appela ce jeune comte à son service. Et toute son activité à Tzinzendorf fut mise au service des missions. Il fonda une mission qui existe encore à l'heure actuelle, la mission des frères Moraves. Et à sa mort, en 1760, plus de 200 missionnaires travaillaient dans 28 pays différents, allant du Groenland jusqu'aux plages brûlantes de l'Inde. Et notre ami, notre frère, que nous retrouverons là-haut, le comte Zinzendorf, avait mis un point d'honneur à ce que tous ces missionnaires soient envoyés dans les endroits les plus difficiles du globe. Et ils donnèrent l'exemple d'une consécration sans réserve et d'un dévouement complet. J'ai été très ému en lisant, il y a quelques jours à peine, le témoignage d'une femme de Dieu, l'épouse d'un pasteur de l'État du Chiapas au Mexique, Loida Tovila. Oh, combien j'aimerais qu'elle soit ici avec nous. Peut-être vit-elle des moments très difficiles alors que nous sommes réunis ici ce matin. Son mari a décidé de consacrer sa vie à aider les Indiens évangéliques persécutés dans cet état. Et il leur apporte son soutien de berger, il prend constamment leur défense auprès des autorités. Combien d'entre eux ont déjà été assassinés au fil de ces dernières années ? Et bien entendu, une telle attitude lui vaut beaucoup d'ennemis. Il a déjà échappé à plusieurs attentats, jour après jour, heure après heure, continuellement, il est menacé de mort. Et voilà un extrait du témoignage de son épouse Loida. Le moins que je puisse faire est de consacrer ma propre vie au Seigneur, puisqu'il m'a sauvé. Et si nous sommes ici, c'est que Dieu a un but pour nous. Tout ce que nous pourrons faire pour Christ n'est rien à côté de ce qu'il a fait pour nous. Malgré les risques, je ne demanderai jamais à mon mari d'arrêter. Nous avons la conviction que ce travail contribue à l'honneur et à la gloire de Dieu. Et ce que nous ne pouvons pas, et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous retirer, au contraire, nous devons persévérer. Offrande volontaire. Offrande librement consentie. L'apôtre Paul ne dit pas de la part de Dieu, je vous ordonne. Il dit, je vous exhorte. Un verbe qui peut se traduire au moins de 20 manières dans le Nouveau Testament, puisqu'il appartient à la famille de ce petit mot paraclé, défenseur, consolateur, avocat, soutien, intercesseur. C'est-à-dire qu'on pourrait lire ici, je vous supplie. Je plaide. Mais aussi je vous encourage. Je vous encourage donc, frère. Et c'est ce que Dieu nous dit, parce que sa parole est une parole vivante. Il s'adresse à nous, aujourd'hui, ce matin. Je vous encourage, entendez-le vous le dire, à chacun en particulier, sur son banc. Je vous encourage, frère, donc sœur, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je plaide auprès de vous, mais vous êtes libre. Dieu ne veut pas de forçat. Dieu ne veut pas de bagnard. Dieu ne veut pas d'hommes et de femmes qui le servent en récriminant du matin au soir, en se plaignant tout le temps, comme si nous avions affaire à un despote, un dictateur autoritaire, capricieux. À un mauvais maître qui nous exploite. Tous ceux qui ont mis leur vie sur l'autel savent que notre Dieu est un Dieu délicieux à servir, même si ses exigences sont élevées. Pourtant, son joug est doux et son fardeau est léger. Ce n'est donc pas un acte de marchandage. Je ne vous demande pas de la part de Dieu d'essayer de gagner sa faveur. Offrir son corps, c'est un acte de reconnaissance. Troisième caractéristique de cette offrande de notre personne tout entière. Je vous encourage, je plaide, je vous supplie. Donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Mes chers bien-aimés, un juif n'aurait jamais offert une bête morte à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Eh bien, cela veut dire que c'est l'offrande, tout d'abord, de ma vie d'hommes et de femmes nés de nouveau, que Dieu réclame. Dieu ne réclame pas cette offrande à ceux d'entre nous qui, tout en étant assis sur ces bancs, ne sont pas encore passés par la nouvelle naissance. Parce que les Écritures le disent, l'irrégénéré est encore sous la condamnation. Il est mort. Il est séparé de Dieu par son péché. Et Dieu ne peut accepter le sacrifice de la mort. Il n'accepte que le sacrifice de la vie. C'est pourquoi tout au long de cette semaine, Dieu nous a invités. Dieu nous a supplié à passer de la condamnation à la justification pour pouvoir entrer dans la sanctification et marcher vers la glorification. Que personne n'essaye de brûler les étapes. Dieu abhorre le sacrifice de la mort. Dieu aime le sacrifice de la vie. Cela veut dire aussi que c'est l'offrande de ma vie aujourd'hui que Dieu réclame. Pourquoi ? Qui d'entre vous sait si à la fin de ce culte il sera encore en vie ? Est-ce que quelqu'un aurait la prétention de se lever parmi nous en disant « Moi, je suis absolument certes, je mets toute ma fortune et qui sait si j'en ai au pari, mes amis. » Ça veut dire que c'est aujourd'hui et maintenant. Maintenant. N'attendez pas qu'il y ait un appel forcément tout à l'heure. Pour dire tout à l'heure, dans une demi-heure, Seigneur, maintenant, puisque notre frère nous y invite, je t'offre mon corps, ce sera peut-être trop tard. Dans combien d'églises locales, pendant un culte, un frère, une sœur, sont subitement décédés, se sont écroulés dans les bancs de l'église ? Je ne fais pas de chantage, c'est un simple constat de bon sens. Et ne serait-il pas dommage que nous soyons appelés auprès de lui avec un cœur partagé, en ayant gardé au fond de notre poche, comme nous le disions hier soir, cette bille bleue que nous ne voulons absolument pas lui donner parce qu'elle nous est trop chère, parce qu'il doit se contenter des 80 ou 90% de notre consécration. Après tout, on a bien le droit d'avoir une vie privée avec le Seigneur. Alors peut-être que même dans nos cœurs, tout en écoutant, nous pouvons dire, Seigneur, Seigneur, maintenant, tout de suite, aujourd'hui et maintenant, c'est le maintenant de la consécration. Seigneur, ma bille bleue, je la dépose sur l'autel. La clé que j'ai gardée, je la mets sur l'autel. La petite pièce qui était mienne, dans laquelle tu n'avais pas le droit d'entrer, je la mets sur l'autel. Ma vidéothèque, ma cassettothèque, ma bibliothèque, tout mon réservoir informatique avec ses disquettes, tout cela je mets sur l'autel. Oh mes amis, ça veut dire qu'il faudra peut-être faire un sacré nettoyage et un nettoyage sacré. L'offrande de ma vie aujourd'hui. Un jour, le porc se plaignait à la vache. Ce sont des sujets qui sont à l'ordre du jour en ce moment. Le porc se plaignait à la vache de sa mauvaise réputation. Et lui disait, on parle toujours de ta douceur, de tes beaux yeux. Tu donnes du lait, de la crème, c'est vrai. Mais moi, le porc, c'est encore mieux. Je donne du jambon, du saucisson, je donne même mes soies, S-O-I-E-S. On mange même mes pieds. Et pourtant, personne ne m'aime. Et il allait tout doucement vers la dépression, et il interrogeait avec supplication cette vache aux yeux tendres, n'est-ce pas ? Mais comment cela se fait-il ? Et la vache de répondre, eh bien, c'est simple, c'est peut-être parce que moi, je donne ce que j'ai de mon vivant. Eh oui, je n'ai l'intention d'offenser personne. Mais que sommes-nous ? Vache ou cochon ? Quatrième caractéristique de l'offrande de nos corps. Je vous encourage, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Et nous y ajouterons agréable à Dieu, parce que s'il est vivant, saint, il est agréable à Dieu. Un sacrifice saint. Si nous connaissons suffisamment le dernier livre de l'Ancien Testament, nous savons déjà ce que cela signifie. Parce que l'un des grands problèmes du peuple juif, quelques 4 bons siècles avant la venue de Jésus-Christ, c'est qu'il était tombé dans un travers fréquent chez l'homme religieux. Ses offrandes étaient formelles. Il faisait des gestes de piété extérieure, mais le cœur ne suivait pas. Et, hélas, à cette époque, les parvis du temple abritaient des hommes et des femmes qui ne faisaient que gémir. Insatisfait, impoli avec Dieu. Et on voyait défiler des hommes et des femmes qui venaient offrir en sacrifice des animaux estropiés, aveugles, malades, et qui disaient, eh bien Dieu, tu dois bien te satisfaire de cela. Au point que le prophète de leur dire, mais est-ce que tu te conduirais de cette manière vis-à-vis des autorités de ta ville, de ton village, de ta région ? Est-ce que tu oserais faire ceci dans ta relation avec ton gouverneur ? Sacrifice saint. Pourquoi un sacrifice saint ? À cause de ce qui est écrit notamment dans 1 Corinthiens au chapitre 6, dans le livre suivant, après l'Épître aux Romains, 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, et le terme débauche évoque toutes les déviations de la sexualité, quelles qu'elles soient. Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche, mes amis. Est-ce que nous l'entendons? Fuyez la débauche. Chaque jour en Martinique, des disciples de Jésus-Christ s'éloignent du Seigneur en tombant dans toutes sortes de déviations de la sexualité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. C'est curieux, ça. Hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Manifestement, l'apôtre Paul, et on le voit par ailleurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il parle de la résurrection, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance, il y a deux niveaux dans notre corps. Et il y a une sorte de corps intérieur. Ce corps, si vous voulez, dont on retrouvera l'identité dans le corps de résurrection. Il y aura un lien absolument évident entre notre corps de résurrection et notre corps actuel. Et ce lien sera lié à ce qui est appelé ici, n'est-ce pas, dans le corps, à cette dimension profonde du corps qui confine avec la personnalité. Et il est, bien-aimé, des péchés qui, d'une manière toute particulière, touchent les profondeurs du corps. La sexualité déviée est un de ces péchés. L'occultisme en particulier, dans toutes ses dimensions, nos relations avec les quimboiseurs et tout le reste, n'est-ce pas? Cela entre dans ce cadre. Il touche au tréfonds de notre être. Et généralement, celui qui a touché en profondeur à ces choses reste souvent fragile pendant toute la suite de sa vie. Voilà la raison de l'avertissement de Paul qui termine en disant « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Mais attention, le temple de Jérusalem, c'était un immense ensemble dans lequel vous aviez le lieu très saint, le lieu saint, mais autour du lieu saint, du lieu très saint, toute une quantité de parvis. Le parvis des juifs, le parvis des femmes, le parvis des prosélytes, etc., n'est-ce pas? Et c'était d'ailleurs dans ces parvis que se livraient un certain nombre de commerces qui déplaisaient royalement au Seigneur Jésus. C'est aussi là qu'il y avait des temps d'enseignement, de partage. Ce n'est pas de ce temple-là qu'il s'agit dans le texte. Parce qu'il y a un mot grec qui correspond à ce temple-là dans toute son étendue, incluant les parvis. Ce n'est pas ce mot qui est utilisé ici. Et nous devrions traduire en réalité, ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit ? Parce que le terme qui est utilisé ici évoque ce rectangle du lieu saint et du lieu très saint. Le cœur du temple. Là où, d'une manière toute particulière, Dieu avait tout au long de l'histoire manifesté sa présence par pure grâce pour que le peuple d'Israël comprenne que Dieu voulait marcher avec lui au milieu de lui. Votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons donc été rachetés à grand prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Quand une femme dit que son corps lui appartient et qu'elle est libre d'en faire ce qu'elle veut, et que cette pensée entre dans les conceptions du christianisme évangélique, au point que maintenant on considère, même dans le milieu évangélique, qu'une femme peut après tout avorter, elle peut faire ce qu'elle veut de son corps. Eh bien, Dieu nous dit le contraire. Mon corps ne m'appartient pas. Mon corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Dieu le Père et Dieu le Fils habitent en esprit en moi. Vous vous rendez compte ? C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Nous avons donc été mis à part. C'est ça le sens de la sainteté. Nous avons été séparés pour Dieu. Et chaque jour, au moment où nous nous levons le matin, nous devrions, dans la présence de Dieu, nous rappeler que nous ne nous appartenons pas. Seigneur, je ne vais pas vivre aujourd'hui comme si mon corps m'appartenait, comme si c'était moi le maître de ma personne. Seigneur, tous mes membres, la totalité de ma personne t'appartient. Je pense à ce frère chinois qui voyageait un jour en chemin de fer et qui se trouve en compagnie de trois incroyants dans un compartiment. Et ces trois incroyants l'invitent à jouer à un jeu de cartes pour passer le temps, parce qu'il leur manque un quatrième partenaire. Alors je ne vais pas vous entraîner ici dans un discours sur la vanité ou non des jeux de cartes, ce n'est pas notre sujet. Mais ce frère de leur dire, écoutez, je regrette de vous décevoir. Je ne puis pas prendre part à votre jeu, car je n'ai pas apporté mes propres mains. Et ses trois compagnons de se demander si le soleil du coin n'avait pas fait déjà des ravages au niveau de ses cellules là-haut. Mais expliquez-vous, cher monsieur. Ben oui, voyez-vous, ces deux mains ne m'appartiennent plus. Et cela a été le début d'un magnifique témoignage personnel que ce disciple de Jésus-Christ a pu rendre à ses incroyants. Je suis sûr que les cartes leur sont tombées des mains en l'écoutant. Lorsque les soldats de Napoléon ont envahi la Russie, ils sont arrivés dans un village qui était totalement désert. Tous ses habitants avaient fui, à l'exception d'un seul, un homme, un paysan, plus spécialement un bûcheron. Lorsque le capitaine de l'armée de Napoléon le vit, il lui ordonna de jeter immédiatement sa hache, tandis que les soldats dirigeaient sur lui leurs fusils. Mais l'homme de demeurer paisible, pas du tout effrayé par ce déploiement subit de force orienté contre lui. Et l'officier qui l'est condamné, qui l'est dirigé, s'aperçoit de ce calme étrange. Et avant que les soldats n'appuient sur la gâchette, il donne ordre de ne rien faire. Et il dit alors, ce paysan aura la vie sauve, mais nous allons mettre sur lui une marque indélébile. L'homme ne poussa pas un cri tandis que sa chair brûlait. Et lorsque le fer fut enlevé, le paysan aperçut sur sa pauvre main meurtrie une lettre. N majuscule. Napoléon. Il regarde. Elle dit, mais qu'est-ce que ceci? Et l'officier de réponse, cette lettre, c'est un M. Il s'agit de l'initiale de Napoléon et cela veut dire que désormais vous lui appartenez. Pendant un court moment, un sentiment de détresse flotta dans le regard de cet homme dont la souffrance était intense. Lorsque, subitement, il se ressaisit. Il avait été un loyal sujet russe, un bon patriote. Il allait maintenant le montrer à l'ennemi. À l'instant même, il plaça sa main marquée sur une solide pierre. Les soldats français le regardaient riaient avec étonnement et sarcasme. L'homme prit sa hache et d'un coup sec et précis, il trancha sa main et la lança à l'officier. Puisque cette main appartient à Napoléon, prenez-la et apportez-la lui. Mais pour moi, je demeure russe. Si je dois mourir, je ne mourrai pas avec une main napoléonienne et un corps russe. Je mourrai entièrement russe. Mes bien-aimés, regardez vos mains en cet instant. Et laissez-vous interpeller avec moi par le Seigneur. Est-ce que mes mains, durant la semaine écoulée, ont été consacrées au Seigneur? Qu'est-ce que vous avez fait de vos mains? Qu'est-ce que j'ai fait de mes mains? Notre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Pensez au tabernacle, ce temple transportable au désert pendant une quarantaine d'années. Il y avait des milliers et des milliers de tentes. C'était un camping gigantesque pour 2 à 3 millions de personnes. Dans ces tentes, soigneusement rangées, selon une stratégie prévue par Dieu, il se passait tout ce qui se passe dans chacune de nos maisons. Des choses belles et des choses odieuses. Nous en avons quelques exemples avec l'histoire d'Acan et le tapis de sol sous lequel se trouvait ce qui devait être consacré à l'Éternel. Mes chers amis, au cœur de ce vaste camping se trouvait une tente, unique, entourée d'une haute barrière de fin lin éclatant de blancheur. Et mes amis, on prenait des précautions infinies pour circuler autour de cette tente et pour que le corps sacerdotal des lévites et des sacrificateurs y pénètrent après un sacrifice, après des ablutions, et pour qu'une fois seulement par an, le souverain sacrificateur y pénètre avec le sang, après avoir pris d'infinies précautions, changement de vêtements, etc. Quelle était la différence? Le comportement était modifié parce qu'on savait que là, dans ce sanctuaire, la présence de Dieu se manifestait. C'était le marchepied du trône céleste de Dieu. Il venait là, trôner entre les deux séraphins. Aujourd'hui, nous sommes le tabernacle. Et c'est pour cela que notre conduite doit être différente. Est-ce que quelqu'un est allé à la banque cette semaine écoulée pour chercher une forte somme d'argent? Imaginez que nous habitions avec ma famille à Fort-de-France. Et qu'un jour vous me croisiez sur un trottoir et que vous tombiez presque à la renverse parce que je suis en train de gambader comme un enfant qui vient de recevoir 25 sucettes ou 10 000 billes. Et je suis là en train de crier « Youpi !» Et il se trouve que vous découvrez que j'ai mon porte-monnaie en main et que je lance en l'air et que je le rattrape et que je le relance là, au milieu de la foule, sur les trottoirs de Fort-de-France. Vous vous direz, mais le pauvre, il a besoin d'aller en centre psychothérapique. Imaginez maintenant que vous m'ayez découvert au cours de la semaine écoulée dans une rue de Fort-de-France, sortant de la banque, avec un magnifique lingot d'or. Croyez-vous que j'aurais eu la stupidité de gambader avec mon lingot d'or en le lançant en l'air et en disant à tout le monde « Coucou, vous avez vu mon beau lingot d'or ?» Qu'est-ce qui détermine notre comportement? C'est la valeur des richesses que nous portons sur nous. Si vous avez 10 francs, j'ai égaré mon porte-monnaie récemment dans une de mes multiples poches, dans un de mes multiples voyages. Je savais qu'il y avait très peu de sous. Je n'ai donc pas fait une jaunisse. Mais il est évident que quand il s'agit d'un lingot, c'est autre chose. On sait les problèmes que rencontrent les fourgons blindés, super blindé, hyper blindé, hyper blindé. Quand ils vont à l'entrée des banques pour recueillir des sommes parfois faramineuses. Mes amis, ce n'est pas de l'argent et de l'or que nous, disciples de Jésus-Christ, nous transportons d'abord. Par un miracle absolument extraordinaire, le Dieu que les cieux et la terre ne peuvent pas contenir, dans son immensité, a accepté par pure grâce de venir demeurer en permanence en chacun d'entre nous par le Saint-Esprit. Et nous, disciples de Jésus-Christ, nous vivons exactement comme s'il n'en était rien. C'est pas vrai? Oh, certes, je ne veux pas généraliser. Je suis absolument persuadé que il y a ici comme ailleurs des disciples de Jésus-Christ qui ont vraiment à cœur d'offrir leur corps et qui le font en sacrifice vivant saint. Mais je crois quand même, je dois le dire, que nos églises généralement sont malades. Parce que nous avons perdu de vue ce qu'est la véritable sainteté. Nous avons perdu de vue la vision du Dieu saint que nous avons évoqué durant cette semaine. Et c'est pour cela que notre christianisme est descendu de plus en plus de médiocrité en médiocrité. Plus nous avons la vision d'un grand Dieu, plus nous avons envie de le servir avec une dignité qui sied à ce grand Dieu. Cinquième et dernière caractéristique avant deux mots de conclusion. Cette cinquième caractéristique n'apparaît pas directement dans le texte, mais vous allez la comprendre. Nous allons relire ce texte en introduisant une petite locution, une petite expression de quatre mots. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps une fois pour toutes, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique. Une fois pour toutes. Loin de moi la pensée de vouloir ajouter quoi que ce soit à l'Écriture. Mais ceux et celles d'entre vous qui avez été attentifs, durant cette semaine, vous vous souvenez que nous avons évoqué dans le développement de notre thème l'usage dans la conjugaison grecque d'un temps qui n'existe pas dans la langue française. Je veux parler de l'aoriste, c'est-à-dire le temps de l'histoire, le temps de l'événement. Et c'est ce temps qui est utilisé ici. Ça aurait pu être un infinitif ou un impératif présent en grec. Mais le présent en grec a une signification différente. Si je dis à mon épouse chérie, chérie, frappe-moi. Je peux vous assurer tout de suite que je vais utiliser l'impératif aoriste. Parce qu'elle va être obligée de frapper un coup et de s'arrêter. Si j'utilise l'impératif présent, si jamais j'ai des problèmes avec mon épouse, à ce moment-là, elle va en profiter. Elle va me frapper, peut-être pendant des heures. Ça, c'est le présent en grec. Le présent est la langue de la continuité. Vous voyez la différence ? Or, tenez-vous bien, chers bien-aimés, nous avons dans cet infinitif, offrir, un infinitif aoriste, donc je vous exhorte à offrir une fois pour toutes. Savez-vous que les 36 verbes qui suivent ce premier verbe, hein, il y a 36 verbes que vous pouvez prendre les uns après les autres dans la suite du texte de Romains 12. Tous ces verbes, les 36, ne sont pas à l'aoriste. Ils sont au présent. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que je dois, à un moment donné de ma vie, une fois pour toutes, tout déposer sur l'autel. Et sur cette base-là, de manière continuelle, je vais servir dans tous les domaines de la vie. Vous comprenez ? Par mes actes répétés quotidiens tout au long de ma vie, parce que un jour, je me suis vraiment consacré entièrement dans toute ma personne au Seigneur, de jour en jour, je vais marcher avec lui. Oh, mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire que je vais offrir mon corps sans réserve mentale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah, imaginez. Imaginez que le Seigneur travaille dans votre cœur. Et que, en ce moment, il vous dise, tu sais, Jacques ou Anne, je te veux tout entier. Je t'aime tellement. Tu ne peux pas imaginer tout ce que je pourrais faire avec toi si tu te donnais entièrement. Et puis alors, à ce moment-là, vous dites, bon, ben Seigneur, d'accord. Je vais me donner à toi tout entier. Et puis, subitement, vous avez le même problème qu'hier soir, Jacques avait avec ses billes dans ses poches. Waouh, ouais, mais j'ai déjà prévu cet été un magnifique voyage à Honolulu sous les cocotiers. Or, je n'ai pas demandé à Dieu si c'était sa volonté. J'ai même essayé d'embobiner Dieu pour qu'il soit d'accord avec moi. Alors, Seigneur, d'accord, je te donne mon corps jusqu'au 14 juillet, parce que le 14 juillet, je vais monter dans l'avion. Et puis au retour, le 5 août, ben je vais te le redonner. Mais pendant cette période, tu comprends, ben je vais pouvoir faire le voyage pour moi. je n'offre pas mon corps pour le reprendre demain. Avec une sorte de réserve mentale comme les jésuites l'ont inventée, cette restriction mentale qu'on appelle la casuistique. Je ne l'ai pas frappé, hein, Seigneur. Et le Seigneur dit, oui, tu peux dire tout ce que tu veux. Hein. Tu as fait le geste, tu ne l'as pas frappé, mais dans ta tête, tu lui as donné une de ces claques. Vous comprenez? Je m'offre à toi. Mais je le fais vraiment de tout mon cœur, sans la moindre réserve. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, le Seigneur ne vous demande pas de vous reconsacrer à lui. À plusieurs reprises dans ma vie avec le Seigneur, je lui ai reconsacré ma vie. Mais ce qui est certain, c'est que chaque fois que je lui ai reconsacré ma vie, je l'ai fait de tout mon cœur et sincèrement, sans calcul. Pas pour quelques mois. Je l'avais fait de tout mon cœur et puis ensuite, il est arrivé un moment où ma vie est devenue quelque peu rétrograde, où j'ai péché dans un domaine ou l'autre, où pendant quelque temps j'ai eu du mal. Et puis le Seigneur m'a ressaisi dans sa grâce. Alors je suis revenu au pied de la croix et j'ai remis ma vie à nouveau sur l'autel. Mais il n'y avait pas de calcul. Cinq caractéristiques. Et si ces cinq caractéristiques y sont, notre culte est un culte raisonnable. Raisonnable. Le terme grec utilisé est exactement le mot logique. C'est un mot grec, le mot logique, francisé simplement. Un culte logique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un a dit, tout acte de culte qui n'aboutit pas à la consécration sainte de celui qui l'offre à Dieu est chrétiennement illogique. Est-ce que nous sommes logiques avec nous-mêmes? La logique, c'est de dire, tu m'as tout donné, je te donne tout. Est-ce que c'est pas logique, ça? Tu m'as tout donné, je te donne tout. Ça, c'est être raisonnable. Ça, c'est être un disciple de Jésus-Christ, homme ou femme, jeune homme ou jeune fille, de bon sens. Tu m'as tout donné, je te donne tout. Mais le mot logique, en grec, a un autre sens. On peut le traduire par le mot spirituel. Ce sera de votre part un culte spirituel. C'est-à-dire contraire à ce qu'on appelle un culte formel. J'y mets mon cœur. C'est la totalité de ma personne. Dans ma tête, je me consacre comme dans mes membres. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des consécrations illogiques. On peut courir les rues dans une apparente consécration pour faire de l'évangélisation du matin au soir, distribuer des milliers de traités. On peut remplir la corbeille d'offrandes au point qu'elle déborde et qu'il faut fabriquer des nouvelles bourses dans l'église locale. On peut même lire sa Bible à l'user et à devoir en changer toutes les semaines. Et pourtant, Dieu n'agrée pas l'offrande. Pourquoi? Parce que c'est formel. Parce que c'est charnel. Parce que le cœur n'y est pas. Parce qu'on a un esprit de compétition. Parce qu'on veut prouver aux autres qu'on est quelqu'un de bien dans le milieu évangélique. Alors un culte logique, c'est un culte spirituel. Seigneur, tu ne me demandes pas de courir la terre et la mer et les cieux pour faire des prosélytes pour mon église. Tu me demandes de faire les œuvres que tu as préparées en Jésus-Christ d'avance pour que je les pratique. Et je veux vivre dans ton intimité. Pour moi, c'est ça ce qui compte, que mon cœur bat à l'unisson du tien. La consécration est la conséquence logique, raisonnable, normale du don total de Dieu en Jésus-Christ. Ne pas tout donner à celui qui a tout donné, c'est un acte irrationnel. Et permettez que, en terminant simplement, je prenne un ou deux exemples, je pense, au fondateur missionnaire de la croisade d'évangélisation mondiale, la WEC, dont une des expressions sont les croisades du livre chrétien, ces librairies évangéliques, Charles Studd, qui renonça à une carrière brillante, que ce soit au plan intellectuel, que ce soit dans le domaine social, il était issu d'une famille très riche, que ce soit dans le domaine sportif, parce qu'il était un remarquable joueur de cricket. Mais quand il consacra sa vie en Christ, quel bouleversement! Je ne vais pas vous raconter toute sa vie, mais simplement vous donner sa devise à ce missionnaire qui a tellement marqué l'Afrique en particulier. Si Jésus-Christ est Dieu, et s'il est mort pour moi, alors aucun sacrifice que je peux faire n'est trop grand pour lui. Je pense à David Livingstone, qui, au XIXe siècle, fut missionnaire et explorateur célèbre en Afrique. Gravement malade lors de son dernier voyage missionnaire, épuisé par la dysenterie, on le trouvera dans la nuit sous sa tente, en pleine brousse, mort à genoux, au pied de son lit. Et Livingstone a notamment écrit ceci: « Pour ma part, je n'ai jamais cessé de me réjouir de ce que Dieu m'ait choisi pour une telle tâche. On parle du sacrifice que j'ai fait en dépensant en Afrique une si grande partie de ma vie. Peut-on appeler un sacrifice ce qui n'est que l'acquittement d'une petite partie de la grande dette envers notre Dieu que nous ne pourrons jamais payer? Est-ce un sacrifice que ce qui apporte avec soi sa réponse bénie, la conscience de bien faire, la paix de l'esprit, la grande espérance d'une glorieuse destinée après? Laissez ce mot, abandonnez cette idée, à vrai dire, il n'y a pas de sacrifice. Dites plutôt qu'il y a un privilège. Je n'ai pas fait un sacrifice. Nous ne devons pas parler de cela. Nous rappelons le grand sacrifice que le Christ a fait, laissant le trône de son Père pour se donner lui-même pour nous. Il écrit en 1850 à sa sœur Agnès ces quelques mots: que jamais nous ne considérions l'obéissance à l'ordre du roi des rois comme un sacrifice, alors que les hommes du monde considèrent l'obéissance aux ordres de leur gouvernement comme un honneur. Je suis missionnaire au plus profond de mon cœur et de mon âme. Dieu n'avait qu'un fils unique et il fut missionnaire et médecin. Je ne suis qu'un bien pâle reflet de ce qu'il fut. C'est à cette tâche que je veux consacrer ma vie. C'est en l'accomplissant que je souhaite mourir. Y aurait-il parmi nous des jeunes gens, jeunes filles âgées de 15 ans? Eh bien, si vous avez 15 ans, écoutez le témoignage de consécration d'un jeune homme qui vient tout juste de se convertir à l'âge de 15 ans, en décembre 1849. Il va devenir le prince des prédicateurs. Dieu va enflammer les cœurs de millions de personnes par le témoignage de ce jeune homme appelé ensuite au service de Dieu, le prince des prédicateurs, Charles Haddon Spurgeon. Et voilà ce qu'il écrit et qu'il dit, qu'il affirme solennellement: « Ô Dieu, grand et insondable, qui connaît mon cœur et éprouve toutes mes voies, dans une humble dépendance du soutien de ton Saint-Esprit, je m'abandonne à toi entièrement. En me donnant à toi comme un sacrifice raisonnable, je te rends ce qui t'appartient. Je veux être à toi pour toujours, sans réserve, perpétuellement. Pendant que je suis sur la terre, je veux te servir. Et puis-je me réjouir en toi et te louer pour toujours ?» Amen. Charles Haddon Spurgeon, 1er février 1850. Un dernier témoignage. Certains ont lu La Passion des âmes, un des grands classiques pour avoir un cœur brûlant dans l'évangélisation. Et son auteur, Oswald Smith, qui fut pasteur évangéliste à Toronto, de prier ainsi le jour de son 38e anniversaire. Seigneur, fais de moi un homme selon ton cœur. Seigneur, voici mes mains, je te les consacre. Puissent-elles ne jamais toucher quelque chose que tu ne veux pas, ni faire quoi que ce soit qui te déshonore. Voici mes pieds, je te les donne, qu'ils puissent ne jamais aller où tu n'es pas vu. Voici mes yeux, qu'ils ne regardent jamais quelque chose qui attristerait le Saint-Esprit. Voici mes oreilles, et qu'elles n'écoutent rien qui fasse honte à ton nom. Que ma bouche ne s'ouvre jamais pour une parole que tu ne veux pas entendre. Que ma mémoire ne retienne jamais une pensée ou une image qui trouble la conscience de ta présence. Que mon cœur ne connaisse pas d'autre amour, ni d'autres sentiments que ceux qui viennent de toi. Combien Dieu a béni ce cher frère Oswald Smith, un homme de notre temps, mais entièrement donné à son Seigneur. Alors nous allons maintenant nous incliner dans la prière. Cher Père, par Jésus-Christ, nous avons entendu avec toi ces prières de consécration. Et c'est une prière de cette qualité que tu attends de notre part. Certes, nous reconnaissons devant toi que nous n'avons pas en nous-mêmes les ressources de la fidélité. Mais Seigneur, tu nous donnes tout, à commencer par le don suprême du Saint-Esprit dans nos cœurs, continuellement à l'œuvre, et de l'intercession de ton Fils glorifié, intercession continuelle. Et tu nous donnes tant d'autres moyens de grâce dans ta parole, éclairée par le Saint-Esprit, dans nos frères et sœurs, pour faire équipe avec nous, dans les ministères que tu offres à ton Église, et de mille et une autres manières, tu nous donnes tout pour que nous puissions vivre, jour après jour, les fruits d'une authentique consécration. Alors Seigneur, passe, comme tu l'as fait cette semaine, dans chacun de nos rangs, et visite-nous les uns et les autres par le Saint-Esprit. Seigneur, remporte la victoire là où le combat fait rage, là où l'ennemi proteste, veut empêcher cette percée. Seigneur, merci pour ton appel. Ô Seigneur, qu'il soit irrésistible pour chacun, tout d'abord pour ceux qui ne sont pas encore régénérés, qui ne sont pas encore au bénéfice de la croix, qui sont encore sous la condamnation. Seigneur, s'il y en a parmi nous, ô, dans ta grâce, qu'ils soient sauvés, déclarés justes, et qu'ils entrent dans la sanctification. Et puis pour nous qui te connaissons, Seigneur, qu'il y ait parmi nous de vraie consécration. Entends notre prière. Nous restons dans la prière, sans nous occuper de droite ni de gauche. Et j'aimerais simplement de la part de Dieu, oh, sans aucune pression et sans aucune insistance, le Saint-Esprit est assez grand pour cela, inviter ceux et celles parmi vous auxquels Dieu parle d'une manière toute particulière, peut-être depuis mardi, peut-être seulement depuis ce matin, peu importe, et qu'il invite, qu'il exhorte, qu'il encourage, dans le cœur duquel il plaide, pour qu'il y ait cette offrande de la totalité de la personne. S'il y a des petites billes bleues à déposer sur l'autel, faites-le. S'il y a des parties de vie privées, s'il y a des choses à déposer au pied de la croix, faites-le. Je vous y encourage de tout mon cœur. Et pour vous y aider, comme cela m'est arrivé à moi-même tant de fois, j'invite simplement ceux et celles, jeunes et moins jeunes, à se lever à leur place en obéissance au travail intérieur du Saint-Esprit. Ce sera une manière de présenter nos corps, nos personnes, de manière concrète au Seigneur. Alors si Dieu parle à votre cœur, nous nous tenons dans le silence, pendant que, comme quelques-uns l'ont déjà fait, d'autres se lèvent à leur tour. Et pendant que les uns et les autres se lèvent, pas pour faire comme le voisin, mais parce que Dieu les y appelle, s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'était pas encore justifié, qui n'était pas encore du tout au clair, qui ne vivait pas de certitude et du témoignage intérieur du Saint-Esprit d'être authentiquement enfant de Dieu, eh bien je l'invite aussi, en ce moment même, à se lever, mais je vais simplement regarder et j'aimerais qu'il lève la main pour bien faire la distinction entre ceux qui offrent leur corps en offrande vivante, et ceux qui, justifiés maintenant, dans la mesure où ils se donnent à Christ, vont pouvoir le faire à leur tour. Alors si quelqu'un se tourne vers Christ pour qu'il soit sauvé, il lève sa main bien haut au même moment pour qu'on sache que c'est aussi sa démarche. Oui, que Dieu vous bénisse. Nous prions les uns pour les autres. Et je sais que le combat fait rage. Mais Dieu a la victoire. Dieu a la victoire. Quelqu'un encore? Que Dieu vous bénisse. Oui, vous pouvez baisser la main. Seigneur, tu vois, tu entends, tu lis, tu connais les cœurs de chacun d'entre nous, que nous l'ayons fait assis, que nous l'ayons fait debout. L'essentiel, c'est d'être dans une obéissance d'amour. Alors Seigneur, bénis. Bénis les bien-aimés qui ont soif de justification, qui veulent être arrachés à cette condamnation éternelle. Accorde-leur la grâce du salut. Viens, ô Dieu, prendre possession de leur vie. Et puis Seigneur, reçois l'humble offrande de nos corps, de nos personnes, et bénis d'une manière toute spéciale ceux et celles qui l'ont manifesté publiquement et concrètement, qui ont pris position clairement au regard d'un ennemi qui n'est pas omniscient, qui a appris maintenant d'une manière particulière dans quel camp il se situe. Alors bénis-les richement. Merci pour ta grâce. Nous te rendons un culte logique, raisonnable, spirituel, à cause de ton amour. En Jésus-Christ. Amen.